Merci pour cette très jolie et très parlante introduction à ce qu'est la fête chrétienne la plus importante. Certains pensent que ce soit Noël, à cause des cadeaux, je suppose, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul a dit, si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait en vain. Si c'est pas vrai que Christ est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, nous aurions aucune espérance, ni pour votre vie présente, ni celle qui sera éternelle. Le texte nous a été déjà présenté par Imke et compagnie, les disciples d'Emmaüs. Et le thème que j'ai choisi pour vous expliquer le texte, c'est voir, c'est une question de regard. Est-ce qu'il y a des personnes qui voient mal dans la salle? Ok. Encore une fois, voir, c'est une question de regard. Et parce que le texte nous a été déjà lu, on ne va pas revenir sur cette lecture-là. Donc, on va faire un petit test de votre vue. Certaines portent des lunettes, gardez vos lunettes, ça peut être utile. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Ce sont deux personnes qui marchent ensemble sur un chemin et discutent sur les événements qui ont lieu il y a 3 jours déjà à Jérusalem. Ce jour de Pâques, il y a quelque chose qui va se passer pour ces deux personnes qui se croient toutes seules sur la route qui mène de Jérusalem à Emmaüs. Parce que, qui voit encore bien, regardez, vous voyez, il y a une personne qui se joint à eux. Ce jour de Pâques, je vous emmène donc loin, loin de ce qui est le théâtre de la résurrection. Loin, loin du jardin où se trouve un tombeau qui désormais est ouvert. Je vous emmène loin du lieu du triomphe de la vie sur la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais c'est pas pour vous faire dérouter de Pâques, mais pour vous présenter Pâques sous un autre regard. Je vous emmène sur la route qui mène à Emmaüs, 12 kilomètres de nord de Jérusalem. Donc, nous marchons ensemble avec un certain Cléopas et son compagnon, dont nous connaissons pas le nom, verset 18. Tous les deux étaient des disciples qui marchaient avec Jésus. Mais désormais, ils pensent de marcher seuls. Parce qu'il y a 3 jours, leur maître a été crucifié. Tous les deux sont bouleversés et traumatisés de ce qui s'est passé à Jérusalem. Ils se rappellent encore vivement des circonstances de l'arrestation de Jésus et puis ce procès qui n'était pas un procès, mais une condamnation, une mise à mort, puis la crucifixion de leur maître. Visiblement, tous les espoirs qu'ils ont mis en ce Jésus de Nazareth, qu'il soit, si c'était simplement possible, vraiment le Messie que Moïse et les prophètes avaient annoncé. Ah, si seulement il aurait pu être le sauveur d'Israël. Ils ont tellement cru, ils ont fermement cru, ils ont mis toute leur confiance en cette personne, et cette personne leur a été enlevée. il se croit toute seule sur cette route. Voyez, il remarque même pas si quelqu'un se met à côté d'eux et de qui est-ce je reviendrai. Pour eux, c'est un chemin de retour. Ils vont revenir de là où ils ont quitté leur chez-soi pour suivre Jésus sur les routes de la Galilée jusqu'à Jérusalem. L'histoire est finie. Le chapitre est clos. Jésus est mort. Et qu'est-ce qu'on dit des morts? Et ils reviennent pas. Pour eux, c'est la fin. Donc, ils vont rentrer chez eux. C'est le chemin de retour. Et les chemins de retour, s'ils sont accompagnés d'une déception intérieure, sont toujours des chemins très, très difficiles. Et surtout très douloureux. On pourrait dire aussi un chemin nommé résignation. Un chemin nommé résignation. Dans la communion avec Jésus, ils avaient été heureux. Dans la communion avec Jésus, ils étaient victorieux. Dans la communion avec Jésus, ils ont vécu au milieu des miracles. Où sont restés les miracles? La perspective que le royaume de Dieu avec Jésus serait bientôt installé sur terre, tel que les prophètes l'ont annoncé, tel que Jésus en parlait, et même Jean-Baptiste qui le précédait, qui l'annonçait. Changez de vie, disait Jean-Baptiste. Parce que, pour quelle raison? Il fallait changer de vie. Parce que le royaume des cieux est proche. Et aujourd'hui, c'est tellement loin. Jésus savait, de son vivant, donner et redonner espoir et force pour croire, pour faire confiance. Marcher avec Jésus valait vraiment le coup de tout abandonner et de le suivre comme un disciple. Mais, avec l'arrestation et la crucifixion de Jésus, tous leurs espoirs et tous leurs rêves sont perdus. À jamais. Envolés. À jamais. Vous connaissez la dure réalité? Si on se réveille et on constate qu'une situation a changé et que la nouvelle situation, elle n'est pas belle, elle est peut-être très difficile ou horrible, la dure réalité de la vie les rattrape brutalement. Le chemin d'Emmaüs, un chemin nommé la résignation. Nous avons espéré qu'il était celui qui délivrait Israël. Mais hélas, point de suspension. Vous l'avez déjà dit dans votre vie. Nous avons tellement cru, mais c'est le mot le plus dur qui existe dans tout ce livre. Le mot « mais ». Parce que le mot « mais » dit brusquement ou montre brusquement tout le contraire de ce qui a précédé ce petit mot. Mais c'est le changement. Mais c'est jamais un changement pour de bon. Mais hélas. Sur le chemin qui est notre vie, il nous arrive à nous aussi des circonstances que nous n'avons pas prévues. D'ailleurs que nous n'avons pas choisies. Et que nous ne maîtrisons pas. Certains constatent avec regret que quand sont arrivés des temps difficiles, qu'est-ce que ça fait avec la foi quand les temps difficiles arrivent? Notre foi prend un coup. Et pour beaucoup, la foi n'est plus la même qu'avant. Nous pouvons les comprendre, ces personnes, car leurs pensées, leurs regrets, leurs sentiments nous sont probablement très familiers. Nous avons certainement vécu des choses semblables sur nos chemins appelés résignation. Vit parmi nous n'a pas toujours été. Pardonnez-moi. Qui parmi nous n'a pas déjà eu des beaux projets pour sa vie et devait hélas les enterrer, faute de moyens de réalisation? Qui parmi nous n'a pas déjà connu d'avoir été rempli d'enthousiasme, se projetant avec confiance dans un avenir propice et prometteur. Sauf que ce futur prometteur, tellement espéré, a été stoppé net par des situations inattendues, douloureuses du temps présent. Qui parmi nous n'a pas déjà connu une foi profonde en Dieu qui a été ébranlée lors d'une crise personnelle? Et pourtant, c'était ce que nous avons espéré, ce qui nous tenait à flot. Qui parmi nous n'a pas déjà été convaincu que Dieu serait toujours et en toutes circonstances le plus fort, qu'il ferait toujours ce qui est juste, qu'il serait toujours sauvé, nous guérir de nos blessures, et puis rien. Comme si c'était coupé. Comme ce Dieu qui marchait avec moi, ce Jésus qui marchait avec moi, avait disparu. Vous connaissez ce sentiment? Il y a un instant encore avec Jésus, et dans d'autres circonstances, tu regardes où il est resté. Il arrivait des circonstances que nous n'avons pas prévues, que nous n'avons pas maîtrisées, peut-être que nous ne maîtrisons pas même à ce moment précis. Ces circonstances ont bouleversé notre foi, et nous avec elles. Il y a le divorce avec une personne qu'on a pourtant aimée. Une maladie grave. La perte de son travail. Et puis les nombreuses lettres de candidature qui restent sans réponse. Ou réponse favorable. L'accident dans lequel un ami a trouvé la mort. Et ne parlons pas des peuples de ce monde qui n'arrivent pas à vivre en paix, comme nous d'ailleurs si souvent. Connaîtrais-tu aussi un chemin que tu nommerais le chemin d'Emmaüs? Chercher Jésus-Christ, le vivant parmi les morts, c'est frapper à la mauvaise porte. C'est chercher à une fausse adresse. Certains cherchent à nous consoler en disant « Oui, Jésus est ressuscité !» Non, pas vraiment, mais dans nos cœurs. Oui, bravo, quelle consolation. Qu'est-ce que me sert une imagination que Jésus soit ressuscité? Pourtant, je sais profondément qu'il est resté parmi les morts. Jésus est ressuscité. Non, pour de vrai, mais dans nos cœurs. Pour le reste, il est bien mort. Il y a même certaines églises qui prêchent cet évangile parce que les pasteurs ne peuvent pas s'imaginer que la toute-puissance de Dieu puisse même faire des miracles. Thomas. Ah non, c'est pas toi. Thomas, un disciple de Jésus. Ah oui, c'est toi aussi. Mais je parle encore d'un autre. Ce Thomas, il est devenu célèbre. Thomas, c'est un discret, mais lui, il est devenu célèbre. Il a dit une phrase qui ne marque toutes sortes d'incrédulité. Et voilà la phrase pourquoi Thomas, le disciple de Jésus, est devenu célèbre. Je ne crois que ce que je vois. Vous circulez, il n'y a rien à voir. N'est-ce pas? Pourriez-vous me dire pour quelle raison cette phrase, elle est absurde? Je ne vois que ce que je vois. Pourquoi elle est absurde et elle est fausse? Elle est erronée. Elle est même idiote. Effectivement, je vous regarde attentivement et vous n'avez pas cessé, bouche ouverte, inspiration, respiration. Il y a certaines personnes qui ont même un téléphone portable, sans câble. Quand j'étais jeune, tous les téléphones étaient câblés. Et on savait d'où ça vient, de la prise qui est dans le mur et qui arrive ici. Je ne vois que ce que je vois. Pourquoi c'est idiot si on prend un téléphone portable? Parce que tu ne vois pas les ondes par lesquelles tu es connecté. Qu'est-ce qui existe encore, ce qu'on ne voit pas? Et pourtant, ça existe. Il y a certaines formes de gaz. Certains gaz sont audibles. Et d'autres ne le sont pas, mais ils sont toujours invisibles. Bon, ça pue. Mais tu ne le vois pas. Ça rentre dans le nez et pas dans les yeux. Il y a plein de choses. Des rayons de lumière. Des rayons de couleur. Et qu'est-ce que j'en sais encore? Et puis, je rencontre des personnes qui me disent, « Monsieur le pasteur, je suis un peu plus intelligent que vous parce que je ne crois ce que je vois. » Sur le chemin, sur leur chemin d'Emmaüs, un inconnu vient se joindre à eux. Tiens, encore un sur le chemin qui s'appelle résignation. Cléophas et son compagnon ne le reconnaissent pas. Pourtant, son visage leur devrait être familier. Ils ont marché avec lui sur la route de la Galilée. Mais même tout proche, marché juste à côté de moi, ils ne le reconnaissent pas. En plus, ils ne reconnaissent même pas sa voix. Et pourtant, ils étaient accrochés à ses lèvres quand il parlait du royaume de Dieu, quand il prêchait et enseignait les foules. Et brusquement, cette voix leur n'était plus familière. Et pour quelle raison? Et pour quelle raison? Vous voyez comment leurs têtes sont inclinées? Et là, franchement, je vois les bouts de mes pieds. Mais ma tête se ne tourne pas, se lève pas, se me redresse pas pour sortir de mon chagrin, de mon deuil, de ma frustration, de mes regrets, pour regarder qui marche avec moi. C'est peut-être aussi du fait qu'ils s'attendent tout simplement pas que Jésus marche avec eux. Combien de fois vous vous êtes pas attendu que Jésus marche avec vous, à côté de vous, voulait agir en dedans de vous et à travers de vous. Vous vous êtes cru seul. Et pourtant, il y avait quelqu'un en qui nous croyons qui se tenait toujours juste à côté de moi. Même avec nos yeux ouverts, je ne crois simplement ce que je vois. Même avec nos yeux ouverts, nous ne voyons pas Jésus qui est là, tout près, juste à notre côté. Et pour quelle raison, les amis? Parce que nous sommes trop occupés à nous occuper de ce qui nous fait mal. Normalement, on fuit le mal dès qu'on peut, n'est-ce pas? Oui, mais pas tous. Combien de fois nous sommes trop occupés à nous occuper de ce qui nous fait mal? C'est important que personne nous dérange quand ça fait nous mal. J'ai droit à avoir mal tout seul. Les belles paroles avec lesquelles on cherche à nous consoler nous dérange parfois dans notre souffrance, plus que ces paroles nous soulagent. Car ils prêtaient l'oreille, nous demanderaient de nous interroger sur les faux raisonnements et de nous détourner de nos sentiments qui nous jouent un tour. et de ce qui nous fait tant mal. Faites-vous partie aussi de ceux qui disent « Mais j'ai droit de souffrir !» Car je le vaux bien. En plus, celui qui souffre, n'est-ce pas? Il a toujours raison. C'est une victime. Et les victimes ont toujours raison. C'est pour ça, peut-être, que nous nous considérons et nous nous comportons aussi dans notre foi et vie chrétienne comme si nous étions les victimes des circonstances. Et tu pleurniches, tu pleures, tu hurles, tu protestes parce que tu crois d'en avoir droit de rester pleinement dans ce qui te fait mal parce que tu le vaux bien. Trop concentrés sur nous-mêmes, devenus aveugles pour les personnes que Dieu met sur notre chemin, juste à côté de nous, pour marcher avec nous. Cléophas et son compagnon ne remarquent même pas les trous dans ses mains et dans ses pieds. Trop attristés et ainsi incapables pour le reconnaître, versets 16 et 17. Et puis, l'humour qu'on trouve dans la Bible. Qu'est-ce que j'ai ri par rapport à cette phrase? Une phrase complètement ironique. Donc, Cléophas demande à celui qui les accompagne. Écoutez bien. Es-tu le seul parmi ceux qui viennent de Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Allô? Allô? C'est le premier concerné? C'était le crucifié et le ressuscité. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé à Jérusalem? Oh oui, j'y étais. Une blague. Dieu se moque de nos raisonnements. Ah, tu es tellement idiot de ne pas savoir. Tu es tellement peu informé. Pardon, je crains que vous deux, vous n'êtes pas au courant de ce qui vient se passer à Jérusalem. Oui, ils n'ont rien vu parce qu'ils ont quitté. Ils n'ont même pas voulu attendre le troisième jour simplement pour voir si Jésus ressuscite ou pas. Parce que c'était quand même annoncé par le maître, non? Non, ils ont pris la route, c'était fini, on va rentrer. Mais bien sûr, tu n'es pas là où Dieu a fait des miracles quand tu quittes la scène avant l'action de Dieu. Je t'invite à rester là où Dieu promet une action pour que tu puisses voir cette action de tes propres yeux et de le vivre dans ton corps. Leur cœur, comme le nôtre, est déjà occupé par autre chose. Et cette autre chose s'appelle le regret. Vous avez déjà entendu ceci? La ligne téléphonique de votre correspondant est occupée. Veuillez rappeler ultérieurement. Bon, ce sont toutes les services, lignes de service, n'est-ce pas? La ligne téléphonique de votre correspondant est occupée. Veuillez rappeler ultérieurement. Ou? Votre correspondant est déjà en ligne. Nous lui indiquons votre appel. Mais vous ne répondez pas parce que vous en bien poursuivre la communication que vous faites avec vous-même. Oh, qu'est-ce que je suis mal. Oh, qu'est-ce que je regrette. Qu'est-ce que c'est injuste. En plus, ça tombe sur moi. Pourquoi toujours moi? Certaines personnes parlent à eux-mêmes sans arrêt. Et quand Dieu les appelle, votre ligne de communication est occupée. Combien de fois c'est Dieu qui devrait se patienter à cause de notre communication, qu'on se parle à nous-mêmes, qu'on se lamente sur nous-mêmes, avant de lui permettre de nous appeler dans notre détresse. Peut-être quand Dieu voudrait s'adresser à nous, l'annonce que lui, il va entendre, c'est « Dieu, veuillez excuser, s'il vous plaît, votre correspondant est toujours en ligne. Cela peut prendre encore un long moment. Veuillez rappeler ultérieurement ou parler lui dès qu'il rentrera à la vie éternelle, ou dès que la ligne est de nouveau disponible. Sans le connaître, la présence de Jésus nous fait déjà du bien. Plus tard dans la soirée, ils vont enfin reconnaître que la présence de Jésus à leur côté leur a déjà fait tellement de bien. Tellement du bien sur le chemin de leur désespoir. Ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Et voilà, ça date quand même de 2000 ans, mais on a l'impression que la génération actuelle ne vit aussi que dans le ressenti. Je le sens bien. Je me sens bien. Comment tu te sens? Je me sens pas bien. Je me sens mal. Tout est dans le ressenti. Et nous sommes devenus ultra sensibles. Nous n'avons pas senti comme un feu dans notre cœur, comme vous pouvez sentir aussi Jésus en vous, à côté de vous, tout près de vous. Je pense à un autocollant qu'un chrétien a mis sur l'arrière pare-choc de sa voiture. Dieu vous est plus proche que vous l'êtes de mes pare-chocs. Vous savez à partir de quelle distance on peut lire ça? Il faut vraiment les coller dessus. Reste avec nous, car le jour baisse et le soir approche. Verset 29. Arrivé à Emmaüs, le jour commence à baisser. Le jour commence à baisser, c'est aussi une image spirituelle qui reflète bien de ce qui se passe dans les cœurs de ces deux disciples. Quelque chose est en baisse, quelque chose est en déclin. C'est le soir, avec toutes ces ombres qui s'approchent. Et Jésus est prêt de rester avec eux sur les routes qui leur sont difficiles à prendre, sur les chemins qui sont en pente dans la vie, dans ce qui est en déclin. Et dans la nuit, et dans des ténèbres, pourquoi Jésus tient tellement à rester, se laisser inviter pour rester? Parce que c'est lui qui est la seule lumière capable de briller dans les ténèbres sans que les ténèbres puissent l'étouffer. Là, vous entendez l'évangéliste Jean. Il rentra dans la maison pour rester avec eux. Et finalement, verset 30, c'est par un geste qu'ils vont le reconnaître. Par un geste. Qu'ils découvrent enfin Jésus. Mais bien sûr, encore sur le chemin et encore prisonniers de leur résignation, ils l'ont vu. Bon, ils n'ont pas vu, mais ils l'ont vu. Jésus marchait avec eux, mais eux, sans le voir. Jésus était encore comme un étranger à côté d'eux. Ils l'ont vu de leurs yeux, mais sans le voir. Sans voir qu'il est venu les rencontrer, qu'il est venu les consoler, ils n'ont pas vu, qu'il est venu les encourager dans leur foi. Ils se croyaient tout seuls, n'est-ce pas? Et pourtant, Jésus marchait déjà à leur côté. Pour les disciples d'Emmaüs, la foi en la résurrection de Jésus a été déclenchée, est devenue possible par un changement de regard. Bien sûr, à table, ils ont vu l'étranger qui les a accompagnés. Ils ont vu, mais ils n'ont pas regardé suffisamment pour découvrir qui est-ce qui est assis à la table. C'est un geste qui ouvre finalement les yeux. Il prend le pain
et le rompit.
Ça, je connais! Ça, je... Attends! Mais c'est bien lui! Et à ce moment-là, il disparaît. Parce qu'ils ont vu. Ils ont suffisamment vu. Leur regard a été changé. Ils avaient reçu un regard nouveau sur des événements qui venaient se produire. Voir Jésus ressuscité les faisait ressusciter aussi eux dans leur foi qu'ils croyaient pourtant bien mortes. Voir Jésus ressuscité les a carrément transportés vers une vie nouvelle, vers un espoir nouveau. Jésus est vivant aujourd'hui et il cherche te rencontrer sur le chemin qui est le tien. Le voir, le découvrir tout près de toi, c'est donc pas une question de voir, mais c'est une question de regard. Vu? Amen.